J'avais pas participé à la précédente édition et là cette année j'avais vraiment le sentiment qu'il fallait qu'on montre ce qu'on faisait sur les territoires, qu'on parle des leviers ou des difficultés, bref, qu'on échange avec vraiment tous les acteurs sur le sujet de l'urgence climatique et de la transition écologique dont on est opérateur. Voilà.
Justement, le public ne sait pas ce que vous faites sur le territoire, c'est-à-dire près de chez nous. Qu'est-ce que vous faites, deux ou trois actions ?
On a pour habitude d'agir avec les collectivités, les élus en premier lieu, les entreprises. On aide aussi de plus en plus les associations, notamment sur les initiatives citoyennes. Tout ce qui est financement participatif sur les énergies, même sur la collecte des déchets. Et on essaie de faire connaître au grand public nos actions par des campagnes de communication nationale. Après, au niveau régional, on va soutenir classiquement les grands projets d'investissement sur l'économie circulaire, sur les déchets, sur les transports, sur l'énergie. Et puis après, on va vraiment être en soutien de tout ce qui est innovation, expérimentation. Vraiment, on se donne le droit d'essayer. On prend le risque aux côtés des gens qui veulent porter des projets pour changer la société.
Vous venez de parler d'économie circulaire. C'est quelque chose qui n'est pas connu. Vous pouvez l'expliquer, parce qu'en fait, est-ce que quelqu'un qui travaille, par exemple, sur la zone d'Aubagne, où au lieu d'acheter du bois, on utilise les palettes de son voisin, est-ce qu'il en parle ? Est-ce qu'il est content de ça ?
Alors effectivement, sur l'économie circulaire, c'est un concept qui est encore mal connu. Et pourtant, ce qu'on constate, c'est que beaucoup d'entreprises, beaucoup de personnes font d'elles-mêmes des actions d'économie circulaire. Ça va de l'entreprise qui repense sa façon de concevoir ses produits, l'éco-conception, au fait de l'usager qui gaspille moins d'alimentation, les ressourceries, tout le réseau de réparation qui permet de lutter quand même contre l'obsolescence programmée. Et puis, in fine, même si on a produit ce déchet, qu'est-ce qu'on en fait ? Au lieu de le jeter, on le valorise, soit on le récupère comme une matière, donc effectivement on le donne à son voisin, encore faut-il connaître son voisin, son entrepreneur qui travaille à côté, ou alors on va essayer de le valoriser sous forme de chaleur pour alimenter des quartiers, des nouveaux quartiers. On essaie jusqu'au bout de conserver cette matière et cette importance qu'elle a et non pas de considérer qu'on peut la jeter à n'importe quel moment.
On parle d'énergie renouvelable, par exemple l'éolien en mer, on est ici à Marseille au bord de la mer, c'est un véritable fiasco, ça prend du temps, rien ne sort, parce qu'il y a des conflits d'usage, on veut bien de l'éolien mais pas sur son rivage, on veut bien du voltaïque mais pas sur son toit, enfin voilà.
Oui, alors c'est tout le paradoxe des énergies renouvelables. C'est vraiment de considérer que tout le monde est d'accord, le grand public est d'accord sur les énergies renouvelables. Mais par contre, dès qu'il faut l'installer, on n'a pas envie que ça soit proche de chez soi. Et c'est pour ça que maintenant, à chaque fois qu'on essaie d'avoir cette réflexion de monter un projet, on demande toujours à un collectif de citoyens engagés ou une association si elle veut bien être partie prenante. Si elle veut bien expliquer, peut-être que nous, à notre niveau, on n'a pas les bons éléments de discours. Mais par contre, des gens proches de leur territoire, qui vivent au quotidien, vont pouvoir comprendre l'intérêt d'en installer. Donc on va de plus en plus vers le fait que le citoyen a son importance dans un projet d'énergie renouvelable.